pour des sujets désormais tabous au lycée, que les enseignants ne peuvent plus enseigner, des cafés interdits aux femmes, et surtout la disparition des coiffeurs mixtes. C'est tout un faisceau d'allégations, plus alarmantes les unes que les autres, faut bien le dire, et témoignant d'une emprise religieuse qui s'est abattue sur la ville de Trappes dans les Yvelines. Alors, à l'origine de ce nouvel emballement, un professeur de philo de la ville, Didier Lemaire, reçu ces 15 derniers jours sur tous les plateaux des chaînes d'infos. Mais ce qui a été particulièrement intéressant, c'est qu'un contrepoint lui a été immédiatement apporté par vous, Ali Rabet, qui avez vous aussi fait la tournée des plateaux pour faire entendre votre voix et donner votre version. Alors vous êtes le maire de Trappes, vous êtes un maire tendance Génération. Génération, c'est le mouvement fondé par Benoît Hamon. Et la raison pour laquelle je vous ai invité aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas craint, je le disais, d'aller porter la contradiction à Didier Lemaire, toujours à distance bien entendu, mais sur les plateaux des chaînes d'infos, c'est-à-dire à cet endroit-là précisément où est habituellement développée la vision la plus caricaturale des quartiers populaires. Et ce qui est intéressant d'un point de vue médiatique, on va dire, c'est de s'interroger sur la possibilité, l'efficacité qu'il peut y avoir à faire entendre un point de vue nuancé, ce que je considère que le vôtre est un point de vue nuancé, balancé dans des endroits comme CNews même, c'est-à-dire le pire du pire. N'avez pas hésité à aller à CNews.
C'est vous qui le caractérisez comme tel. J'ai pu mesurer que ce n'était pas une caractérisation infondée. j'ai refusé beaucoup d'émissions sur CNews notamment, et Dieu sait qu'il m'a sollicité lourdement, celle de Pascal Praud, qui a une émission où il organise la foire d'Empoigne et dont il revendique d'ailleurs une forme de démarche militante de sa part, idéologique. CNews, j'y suis allé parce que Didier Lemaire y allait. BFM, idem, et un certain nombre de médias. Je n'y serais pas allé dans l'absolu. D'ailleurs, j'aurais bien aimé, moi, qu'on me foute la paix, tout simplement. Ça fait 7 mois seulement que je suis maire de Trappes. Je suis en prise avec des difficultés sur le terrain qui sont nombreuses, dont la question de la radicalisation, du repli communautaire, sur lequel je porte un regard lucide et engagé. Et ce travail qui mérite la mobilisation de l'État, du maire, de tous les services, de l'éducation nationale, des services de l'antiterrorisme, du renseignement, suppose qu'on le fasse aussi dans une forme de discrétion. Et malheureusement, l'irruption de cette figure, de Didier Lemaire, dans le débat public, et surtout, et c'est peut-être ce qui est le plus intéressant de caractériser ici, la façon dont sa parole a été amplifiée,
on va le voir,
déformée, travestie d'ailleurs par moments, il était pourtant suffisamment radical dans son expression pour qu'on se contente de la reproduire, m'a frappé. C'est-à-dire que le week-end qui a suivi, les jours qui ont suivi ces déclarations dans Le Point, on a vu sur les chaînes d'info continue des commentateurs, des journalistes, des chroniqueurs, travestir le contenu de ses propres propos.
Alors, on va avoir toute l'émission pour en parler, hein, pour revenir à la fois sur ses propos et dans la manière ils ont été éventuellement travestis. Je disais que au centre de cette émission sera la question de savoir si on peut, dans un débat extrêmement tranché, faire entendre un point de vue nuancé. Donc, on en parlera pendant toute l'émission. Et à la fin de l'émission, nous recevrons un invité surprise qui, sur un autre front, mène un combat, m'a-t-il semblé, un peu comparable, mais j'en dis pas plus.
Alors, est-ce qu'on peut faire émerger la vérité sur ces plateaux? Je crois que non.
Bah alors, non mais attendez, on va quand même, on va quand même étudier le dossier.
On a une heure pour en parler.
On a une heure pour en parler. J'ajoute que vous êtes depuis tout cet épisode sous protection policière, ce que nous avons pu vérifier à votre arrivée dans nos locaux à Arrêt-sur-Image. Alors, d'où vient cet emballement autour du témoignage de ce prof de philo Didier Lemaire? Alors, il vient à l'origine d'une interview qu'il a donnée il y a quelques semaines à la télévision hollandaise, où il expliquait qu'un certain nombre de sujets, je le disais, étaient tabous, qu'on ne pouvait plus les aborder dans ses classes de philo du lycée de la Plaine de Naufle, où il enseigne à Trappes. Interview à la télé hollandaise qui a été reprise quelques jours plus tard par un article du Point, et à partir de ce moment-là, c'est parti. On écoute un échantillon du témoignage de Didier Lemaire sur tous les plateaux.
Mes élèves, de façon générale, ne se sentent plus français du tout. Ils ont d'autres mœurs, une idéologie qui les sépare de la liberté, de l'égalité. Les filles sont soumises aux garçons. C'est un monde vraiment très, très différent du nôtre. Par exemple, une de mes élèves m'a dit « Mais oui, monsieur, je téléphone tous les jours à RACAP pour prendre des nouvelles de mes amis. » En début d'année, dans une classe, des élèves, l'ensemble des filles de la classe qui refusent une sortie scolaire au prétexte qu'elles seront filmées sans leur voile. À Trappes, par exemple, il n'y a plus de lieu mixte, il n'y a plus de coiffeurs mixtes. Et d'ailleurs, je constate que les maghrébins athées et les musulmans modérés sont en train de quitter la ville. En fait, à Trappes, les femmes maghrébines ou d'origine maghrébine ne peuvent pas entrer dans un café. C'est pas possible. C'est inimaginable.
Ça, c'est pas une légende.
C'est terrible.
Ça n'est pas une légende, ce ne sont pas des propos rapportés. Vous le voyez tous les jours.
Je l'attrape tous les jours depuis 20 ans.
Alors, on reviendra sur tous ces points, point par point. Simplement, je disais que ça avait commencé là ces dernières semaines. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a 3 ans déjà, en 2018, à l'occasion de la diffusion d'un documentaire à la télévision, Didier Lemaire avait déjà témoigné des conditions d'enseignement, selon lui, dans les écoles de Trappes. C'était sur France Inter.
Dans les maternelles, à Trappes, les enfants refusent de chanter.
Attends, expliquez-moi ça.
Et parce
chanter
que
quoi?
De chanter n'importe quelle chanson. Parce
au nom de quoi?
Au nom de ce qu'ils appellent leur islam, c'est-à-dire de ce que leurs parents,
bien sûr, les parents évidemment,
leur ont inculqué. C'est-à-dire que maintenant, les enfants ne peuvent plus chanter à la maternelle.
Alors, on a entendu beaucoup de choses. Sur les coiffeurs, on y reviendra plus tard. On va faire une partie coiffeur dans cette émission, ce qui apparemment l'affaire des coiffeurs est extrêmement importante. Sur ce qu'il dit dans les établissements scolaires, les lycées, les écoles maternelles, est-ce que tout est faux?
Alors, ce qui est fascinant avec ces déclarations, encore une fois, je pense qu'il est moins le cœur du sujet que la question de comment les médias ont traité ces déclarations. Dans ce qu'il dit, c'est assez fascinant. J'ai lu également une très longue interview publiée aujourd'hui dans le Figaro. Il y a un mélange de vrais, d'éléments sur lesquels je suis moi-même témoin, que je pourrais d'ailleurs approuver pour une partie d'entre eux. Et tout d'un coup tombent comme ça des informations qui sont assénées comme des vérités incontestables et qui sont factuellement fausses.
Alors, on peut donner des exemples du vrai et du faux?
Là, il nous faut 1h30 de discussion, franchement, mais quelques-uns. Notamment le dernier extrait que vous avez voulu nous faire entendre. Qui date d'il y a 3 ans déjà. Donc il faut comprendre aussi qu'il a une démarche militante qui est respectable, comme la mienne. Je suis un maire et donc un militant politique, avec des convictions qui viennent aussi influencer mon regard et mon action. Il est un observateur en tant que professeur de philosophie, mais il est aussi un acteur politique, un militant engagé.
Il appartient à un petit parti laïque.
Voilà. C'est ça. Et avant ce parti, il a fait une incursion par le Printemps républicain et puis par d'autres groupuscules, toujours autour des sujets. Et d'ailleurs, systématiquement, il a considéré que ces groupuscules n'étaient pas assez radicaux. Ce qui l'a amené de surenchère en surenchère à aller jusqu'au Parti républicain solidariste.
Enfin, on a publié sur le site une enquête sur effectivement ses engagements militants précédents.
Voilà. Et ça, ce sont des faits. Ce que je dis là et ce que vous avez publié, que je n'ai pas encore lu. Mais ce sont des faits incontestables et qu'il a omis de préciser au moment où il était invité sur les plateaux télé. Et surtout, je reproche aux journalistes qui lui ont tendu le micro, et c'est leur liberté de le faire, et ça, c'est sa liberté de s'exprimer, mais de ne pas contextualiser, de ne pas dire voilà qui nous avons invité, un professeur de philosophie à Trappes, mais aussi un militant politique qui, depuis des années, a des engagements sur ces sujets.
C'est le propre des emballements, c'est-à-dire ça part à toute allure, et puis effectivement.
Personne ne prend le temps de dire qui parle et d'où il parle.
Et on enquête après. Alors qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? S'agissant des écoles et des lycées.
Le dernier élément, pour moi le plus frappant, et me donne une forme de vertige par rapport au sérieux des journalistes. Quand Fabrice Drouel, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que je suis abonné à ses podcasts et j'écoute ses émissions, c'est comme ça que je suis tombé de façon fortuite il y a plus de 3 ans sur l'émission de Didier Lemaire et le témoignage sur Trappes.
Vous l'aviez entendu à l'époque?
En direct. Pas en direct parce que j'écoute les podcasts, mais quelques jours après, le dimanche quand j'ai un peu de temps, j'écoute des podcasts. Et donc je l'ai découvert comme ça, ce Didier Lemaire. Quand j'ai découvert cette phrase qui m'a fait sursauter, le reste du propos était à peu près pondéré, hein, et j'aurais pu être d'accord avec beaucoup de ses affirmations. Mais j'ai sursauté quand je l'ai entendu dire que dans les écoles de Trappes, on ne chante plus à cause de l'islam. Et là, quand vous êtes comme moi, membre de conseil des lycées, des écoles de Trappes, moi je suis, par exemple, je siège dans une école maternelle depuis 6 ans, 7 ans maintenant, et que les enfants chantent tout le temps, dans le cadre scolaire, le cadre périscolaire, qu'il y a des chorales, des associations qui font de la chanson. On a même une association de promotion de la musique qui fait de la musique et notamment qui organise un chœur d'enfants dans les écoles de Trappes. Donc il n'y a pas une école de Trappes, il n'y a pas une classe de Trappes où on ne chante pas, comme dans toutes les villes de France. Mais au moment où vous êtes, vous comme maire, amené à parler avec des journalistes en leur disant que oui, on chante dans les écoles de Trappes, notamment dans les écoles maternelles, et oui, on se coupe les cheveux dans des coiffeurs mixtes à Trappes, y compris tout près du lycée de M. Didier Lemaire.
On va y revenir.
Vous dites, on marche sur la tête. Pourquoi moi, maire d'une ville qui a des préoccupations importantes à régler au quotidien et à faire face au communautarisme, au repli communautaire, notamment au djihadisme, en fait, en réalité, pour certains de mes concitoyens. Comment puis-je en être arrivé là, à couper les cheveux en quatre, en fait, à parler coiffeur ?
D'où ça vient, l'histoire des chorales ? D'où ça peut venir ?
Nulle part.
Ça vient de
nulle part. J'ai aucune explication. J'aurais aimé avoir un débat avec Didier Lemaire pour lui demander dans quel esprit farfelu il allait chercher cette information.
À l'époque, vous l'avez cherché, ce débat ?
Même pas, parce que je me suis dit, bon, honnêtement, ma réaction, comme plein de gens, c'est de me dire, bon, on a affaire à quelqu'un qui dit n'importe quoi, voilà, ouais. Pas débattre avec quelqu'un qui dit n'importe quoi.
Mais alors, qu'est-ce qui est vrai dans ce que vous venez d'entendre là, sur les conditions d'exercice du métier de prof à Trappes ? Qu'est-ce qui est vrai ?
Sur les conditions d'exercice du métier de prof, il faut entendre Didier Lemaire lui-même qui dit qu'il n'a jamais eu de problème avec ses élèves. C'est ce qu'il m'a dit, moi, la seule fois où j'ai eu à échanger avec lui sur ces sujets.
Donc il n'y a aucun problème dans les lycées ?
Non, lui, non. Ah. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important. Vous, Daniel, soyez aussi rigoureux que vos collègues parfois ne le sont pas. Didier Lemaire affirme qu'il n'a jamais eu de difficulté dans le cadre de sa classe avec ces sujets. Qu'il enseigne la philosophie sans jamais être entravé.
Il ne dit pas tout à fait ça. Hein. Et notamment depuis l'interview à la télé hollandaise, ouais. Il dit que des élèves lui ont demandé « Mais monsieur, oui. Pourquoi vous avez parlé contre nous ?»
Oui, mais justement, il n'a pas de difficulté, c'est-à-dire il n'a pas des personnes qui sont violentes, qui refusent le débat, etc. Il a une discussion apaisée avec ses élèves. Je lui avais demandé, mais avant l'interview néerlandaise, avant la polémique de ces derniers mois, quand je l'ai rencontré une fois à l'occasion d'un des déplacements dans le lycée et qu'il m'a été présenté, par la chef d'établissement, que j'ai fait le lien avec cette émission chez Fabrice Drouel, je lui demandais, est-ce que vous avez déjà eu, dans vos classes, des difficultés à enseigner la philosophie, par exemple, les Lumières, les grands philosophes ? Et il m'a répondu, non, je n'ai jamais eu de problème. Donc il le reconnaît lui-même, ça. En revanche, moi, comme maire, je vais vous dire, une expérience récente, après l'attentat islamiste contre Samuel Paty, j'ai organisé, comme beaucoup de maires, un hommage municipal dans la lignée de l'hommage national à Trappes, où j'ai prononcé un discours, nous avons rassemblé plus de 300 personnes, dont des enseignants, évidemment, qui se sont rendus à cet hommage. Et à la fin de cet hommage, je suis allé vers des enseignants qui étaient là, parce que j'ai profité aussi de l'hommage pour livrer un discours visant les enseignants, comme hussards de la République, comme justement ceux qui portent les lumières dans les établissements scolaires. Et je suis allé les voir, on a eu une discussion sur le fameux pas de vague. Et je leur ai dit, au directeur d'école qui était là...
Le pas de vague, c'est ce que...
pas de vague, c'est, vous savez, ce hashtag qui a prospéré sur les réseaux sociaux pour indiquer que les enseignants étaient invités depuis quelques années par la hiérarchie à mettre la poussière sous le tapis et à ne pas dire ce qui se passe dans les établissements quand ça peut poser problème, notamment quand on aborde les questions religieuses ou les questions... quand on parle de la terre qui est ronde ou de l'homme qui descend du singe, etc. Et je leur ai dit, sur tous ces sujets, soyez libres de vous exprimer clairement, fortement, et venez me voir pour me dire... À chaque fois que vous pouvez éprouver des difficultés avec un enfant, une famille, un groupe d'individus, dans une école plus que dans une autre, nous signaler tous ces faits pour qu'on puisse les traiter.
Qu'est-ce que vous en répondez ?
Eh bien, justement, on a discuté plus d'une demi-heure sur le parvis de la mairie.
Et il en ressortait quoi ?
Que les profs de Trappes ont, comme dans toutes les écoles, malheureusement, dans beaucoup en tout cas d'écoles de ce pays, peuvent rencontrer des difficultés avec des enfants dont parfois la culture religieuse ou les présupposés, les préjugés qu'ils peuvent avoir dans la tête les empêchent d'accepter l'enseignement du prof, ou la discussion, ou le désaccord.
Ils vous ont donné des exemples, les profs que vous avez rencontrés ce jour-là, par exemple ?
Oui, tout à fait. Je ne peux pas vous donner en détail, en tout cas, j'ai en tête les visages de ces enseignants qui m'ont donné des exemples, mais en me disant, parfois, on a des difficultés quand on parle de la question du voile, ou quand on parle, même avec des parents, directement, qui considèrent que tel type d'enseignement sur l'égalité filles-garçons, sur la sexualité à l'école, etc., ne doivent pas être abordés en classe. Voilà des sujets précis qu'ils ont évoqués et qui, moi, me préoccupent, parce que tous ces sujets doivent être abordés dans toutes les classes de France, y compris à Trappes. Donc ces réalités, je ne suis pas du tout dans le déni vis-à-vis de ça.
Alors, d'autant plus que Didier Lemaire n'est pas seul à en faire état. Alors, par exemple, ces derniers jours, on a eu plusieurs témoignages. Dans le Figaro, cette semaine, le témoignage de l'écrivain Omar Youssef Souleymane, donc, qui est venu faire un atelier d'écriture au même lycée, au lycée de la Plaine de Naufle. Ce qu'il raconte au Figaro, j'ai été très surpris. Quand il a demandé aux lycéens ce qu'ils voulaient faire plus tard, alors l'un d'entre eux voulait devenir prof de sciences islamiques à Alger. Plusieurs autres ne parlaient que d'aller à la Mecque ou de s'installer en Arabie Saoudite. Ceux dont les rêves ressemblaient le plus à ceux d'un adolescent normal parlaient de conduire des Ferrari à Dubaï. Il leur pose la question, si un terroriste est caché chez vous, est-ce que vous appelez la police ? Beaucoup ont répondu non, sûrement pas. Ils considéraient les terroristes comme des héros, d'autres très, très, très fiers d'avoir la photo de Samuel Paty décapité sur leur téléphone. Tout ça, ça correspond au témoignage que vous pouvez avoir ?
Bon, premièrement, moi, j'y étais pas dans cette salle de classe. Et je n'ai pas envie, je vous le dis, je n'ai pas envie de croire sur parole. Je n'ai plus envie de croire sur parole ni Didier Lemaire, ni son invité, puisque c'est son invité, ce monsieur que je ne connais pas, et qui déclare... Oui, je ne sais pas qui c'est, mais c'était son invité.
D'accord.
Il était dans la classe de Didier Lemaire, invité par Didier Lemaire. Ça veut dire que si Didier Lemaire l'invite, il doit partager avec lui un certain nombre de convictions.
D'accord. Mais moi, c'est bien de le préciser. En effet, il a rencontré une classe de terminale du professeur de philosophie,
voilà,
Didier Lemaire.
Donc on a quelqu'un qui intervient alors, au moment de la polémique pour venir en soutien à Didier Lemaire en affirmant des faits encore plus graves, d'après ce que j'entends, que ce que Didier Lemaire affirmait lui-même.
Donc vous faites
donc pas neutre.
Vous faites pas confiance a priori. Alors j'en ai
non,
un
non,
autre.
Non, plus que ça. Je ne fais pas confiance a priori, mais je vous demande de faire votre job, pas vous, Daniel, particulièrement. Les autres journalistes, ils sont intervenus devant une salle de classe. Il y avait peut-être d'autres adultes témoins. Il y avait des élèves. Essayez de les retrouver, interrogez-les. Ont-ils vraiment tous tenu ce discours-là ? Je connais les jeunes de ma ville. Je leur parle très régulièrement. Quand je leur parle de leurs rêves, c'est d'être pris en école de commerce. Je l'ai fait encore cette semaine, la semaine dernière, au lycée de la Plaine de Naufle. C'est d'avoir la bonne école de commerce, la bonne université, le bon BTS. Pour avoir un diplôme, avoir un travail, avoir un emploi, avoir un logement, pouvoir se marier. J'ai rarement discuté avec des groupes qui me disent à 95% d'entre eux, on veut aller à Dubaï en Ferrari, on veut devenir prof d'université islamique ou je ne sais quoi. Tout ça ne m'a pas l'air. Je ne suis pas là, j'en sais rien, les faits, je ne les connais pas. Mais je considère que ce n'est pas vraisemblable.
Alors, j'en ai d'autres. Le livre de Raphaël Baquet, Ariane Chemin, La communauté, livre consacré à Trapp, paru il y a 3 ans.
2018, oui.
2018, je pense que vous l'avez lu.
Bien sûr. J'ai beaucoup échangé avec elle. Ouais.
Ouais, d'ailleurs, vous y êtes cité.
Tout à fait.
Elles vous ont rencontré. Enfin, voilà, on parle de vous, de votre ascension politique, etc.
Elles ont même prédit potentiellement ma victoire aux élections municipales. Sur ce point-là, j'avais raison.
Comme quoi, elles ne sont pas si mauvaises. Alors, elle raconte l'histoire d'une prof, Marie-Laure Segal, prof de philo en fin de carrière. Et elle raconte ce jour où cette prof de philo en fin de carrière se heurte à une de ses élèves qui lève le doigt parce qu'on est en train de parler de Galilée et de la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc dit l'élève, avec l'islam, il n'y a pas besoin de toutes ces discussions, tout est dans le Coran et il est dit que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Autre témoignage, toujours à travers cette prof de philo, on parle d'homosexualité, un garçon répond très sérieusement, ça vient du diable. Bon, donc une autre prof de philo, Marie-Laure Segal, vous allez me dire que c'est aussi une copine de Didier Lemaire.
Pas du tout. Ils ont, en l'occurrence, été engagés dans une association laïque à Trappes, ensemble. Et d'ailleurs, Didier Lemaire a quitté cette association parce qu'il a considéré que ses membres n'étaient pas assez radicaux. Il le dit lui-même. Et d'ailleurs, Marie-Laure Segal en témoigne, puisqu'ils ont eu des désaccords sur ces sujets. Mais moi, je ne connais pas d'ailleurs Marie-Laure Segal, j'aimerais bien la rencontrer, mais j'ai plutôt un a priori confiant vis-à-vis de ce qu'elle dit. Typiquement, ce genre d'exemple.
Donc vous avez lu ça ?
Bien sûr. Et y compris d'autres déclarations de Marie-Laure Segal, qui est active sur la ville de Trappes depuis des décennies, qui a été enseignante très longtemps, avant même Didier Lemaire, etc. Et Marie-Laure Segal, c'est plutôt quelqu'un qui, effectivement, sur la laïcité, a des positions tranchées, fermes, et c'est très bien, d'ailleurs, assez identique aux miennes, et qui parle d'expérience, et qui est militante sur ces sujets. Mais qui exprime des nuances de gris que je constate moi-même. Chacune des anecdotes que vous venez de rappeler là me semble vraisemblable, à l'inverse de ce qui est dit juste avant sur les histoires de Ferrari à Dubaï. Et j'ai pu moi-même entendre des discours comme cela. Des gens qui croient que rien d'autre que ce qui est inscrit dans le Coran doit matricer leur vie et leur permettre d'analyser le réel, ça existe à Trappes. Y compris parmi des gamins qui répètent les discours qu'ils entendent à la maison.
Mais ça existe de manière marginale ou c'est fréquent, voire même c'est plus majoritaire C'est ça qu'on se demande.
C'est plus fréquent que dans un village du Berry, voilà, évidemment. Mais ce n'est pas la totalité, ni même la majorité, ni même une grande minorité des habitants de la ville de Trappes.
C'est marginal.
C'est marginal, mais c'est suffisamment préoccupant, parce que c'est bien plus en moyenne que dans des villages ou des villes de France de la même taille. C'est beaucoup plus préoccupant qu'ailleurs. C'est pour cela... et c'est un fait aussi qui est rappelé dans ce bouquin, mais que je connais moi depuis des années, sur lequel d'ailleurs j'ai eu à échanger avec Raphaël Baquet et Anne Chemin, c'est pour cela que la ville de Trappes a fourni un nombre de djihadistes beaucoup plus important que d'autres communes. Même si c'est la ville de Nice qui est la première destination de départ des djihadistes. Et on n'accuse pas le maire Christian Estrosi d'en être responsable.
C'est pour cela, c'est-à-dire, quelle est la spécificité de Trappes qui fait qu'effectivement, vous arrivez sur la deuxième marche du podium, si j'ose dire, du nombre de djihadistes.
Il y a incontestablement un terreau.
Et pourquoi chez vous ?
Je vais vous donner quelques éléments de compréhension qui sont ceux que je connais. C'est-à-dire, je ne suis pas moi l'expert et le plus informé de ce pays. Mais ce que je sais, et ce qui est avéré, c'est qu'à Trappes, il y a eu, y compris dans les années 90, j'avais 10 ans à l'époque, des militants, des personnes engagées, des réseaux des flux financiers qui ont contribué à l'essor du groupe islamique armé, par exemple, en Algérie, et à ces attentats perpétrés en France. Il y a eu des gens affiliés au Front islamique du salut algérien. Il y a eu, dans les années 2000, des réseaux terroristes qui ont été démantelés. Un réseau en particulier à Trappes, qui s'appelle Ansar Al-Fas, qui a été démantelé. Il y a des personnes qui ont fait de la prison, qui sont encore en résidence surveillée. Tous ces faits-là sont incontestables. Donc vous avez, entre guillemets, une forme d'allumette, vous voyez, vous avez l'allumette qui existe, et vous avez aussi du carburant. Et là où j'interviens moi comme maire, c'est pour essayer d'éponger le carburant. C'est quoi le carburant ? C'est le sentiment d'être relégué pour une partie de la population, le sentiment d'être condamné par la République, le sentiment d'être mis à l'écart justement de la République, que l'ascenseur social ne fonctionnera jamais pour vous, que le chômage vous frappera plus qu'ailleurs. C'est que quand vous entrez en CP, la moyenne de mots maîtrisés par un enfant qui rentre en CP à Trappes est de 2 fois, 3 fois inférieure à la moyenne nationale. C'est tous ces éléments-là qui créent du séparatisme justement parce qu'il y a une concentration de logements sociaux, de difficultés sociales, économiques majeures. Donc quand vous reliez un carburant qui existe, c'est-à-dire une forme de désœuvrement d'une partie de la population de jeunes gens qui n'ont pas de sens dans leur vie, qui sont vulnérables aux discours de propagande, et la présence de propagandistes susceptibles de profiter de cette situation, et notamment de l'état du débat public où les musulmans sont pointés du doigt systématiquement et donc profiter d'une forme de victimisation pour pouvoir toucher et atteindre des cerveaux vulnérables, eh bien vous avez un résultat qui est catastrophique, et notamment ces dizaines de personnes parties mourir en Irak et en Syrie.
Alors, pour revenir à la séquence Le Maire et ses suites, donc derrière les témoignages de Didier Le Maire, la mainmise des islamistes sur Trappes devient le sujet de prédilection des chaînes d'info, dirigeants et porte-parole du Rassemblement national et éditorialistes confondus.
Trappes, c'est 67 djihadistes partis au combat, c'est le record d'Europe. Hein, on est quand même dans un phénomène assez massif. Trappes, c'est la première manifestation, les premières émeutes religieuses en France en 2013.
La tendance lourde, c'est qu'à Trappes, le fondamentalisme a pris largement le pouvoir.
Non seulement la charia est appliquée naturellement à Trappes, mais c'est devenu un trappistan, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est devenu une pépinière de djihadistes et de fichiers.
Trappes, c'est une population à 70% musulmane où la quasi-totalité des femmes sur le marché portent le voile.
Il y a myriades d'associations islamistes qui sévissent de façon directe ou indirecte sur la ville de Trappes et qui ont totalement, je dirais, reformaté la mentalité de la plupart des habitants.
Trappes, c'est un mini-califat aujourd'hui, où d'autres règles s'appliquent que les lois de la République.
On nous dit, effectivement, Trappes n'est pas une ville où il y a des djihadistes partout. Mais le curseur, pour moi, il n'est pas là. C'est-à-dire, c'est une ville qui n'est plus vraiment une ville française.
Alors, quand on met à part les excès de langage, hein, le trappistan, etc., la charia, c'est une ville étrangère... Comment réagissez-vous à la description qui est faite ?
Ce n'est pas des excès de langage, c'est une stratégie de la part d'hommes et de femmes qui sont des militants, hein, politiques ou chroniqueurs, etc., et qui veulent dépeindre une version de la réalité qui est en décalage avec les faits, mais qui contribuera à exciter une partie de l'électorat, et une partie des Français, et à lever une partie des Français contre les autres, et en particulier contre les musulmans.
– Mais est-ce que c'est en décalage avec les faits, ou est-ce que c'est une interprétation et le fait de focaliser effectivement sur un détail ? Par exemple, une majorité des femmes portent le voile sur le marché de Trappes, c'est vrai. C'est ce qu'on voit sur les images.
Oui.
Voilà,
Il y a beaucoup de voiles sur le marché de Trappes. Une majorité, je vous avoue, je n'ai jamais fait le compte. Hein, mais quand on dit qu'il n'y a que des femmes voilées sur le marché.
Alors là, vous voyez, on a des images, là, parce que vous êtes allé vous balader sur votre marché avec Jean-Marc Morandini.
Mais vous savez, on y retournera l'été, vous verrez le nombre de femmes bras nus, en jupe, etc., qui sont sur le marché de Trappes et qui se font draguer par les commerçants, d'ailleurs, de façon un peu trop outrancière, au point que le problème, c'est plutôt le sexisme des hommes, que ce soit à travers l'imposition du voile à certaines femmes qui sont contraintes, ou que ce soit à travers la drague lourde qu'on peut rencontrer à Paris comme à Trappes.
On drague sur le marché de Trappes.
Mais bien sûr, les commerçants passent leur temps à faire ça. Ils font même, vous savez, ils offrent même. Ma compagne est bretonne, blonde aux yeux bleus. C'est une jeune femme plutôt séduisante. Et quand elle fait ses courses au marché de Trappes, elle n'a jamais eu de difficultés particulières, si ce n'est effectivement des dragueries lourdes et des commerçants qui lui offrent des oranges, je ne sais quoi, pour essayer d'avoir son numéro de téléphone. Donc ça, c'est très pénible pour une femme et c'est assez insupportable, à Trappes comme à Paris. Pour revenir au fond. Quand on dit « les lois de la République ne s'appliquent plus à Trappes », c'est la charia qui s'applique à Trappes. Mmh. On dit de moi, en fait, que je suis un calife, un imam, je ne
sais
quoi.
Qui dit ça ?
Vous les avez à l'instant.
Oui, enfin, c'était pas personnalisé. C'était un califat en général.
Il faut comprendre.
Mais c'est vrai, s'il y a califat, il y a calife. Oui.
Bien sûr que si, s'il y a califat, il y a calife. Et c'est ce que comprennent en fait ceux qui regardent la télé. Et c'est ce que excite comme sentiment Elisabeth Lévy, Van Rioufol et tous les autres. C'est pour ça que je reçois des menaces de mort. C'est parce que des gens sont convaincus que je suis moi l'ennemi de la République, alors que j'essaie d'incarner la République tous les jours sur le terrain et qu'à travers mon action, ma collaboration avec les services de l'État, je veille sur un territoire difficile, justement, où existent ces ingrédients dont je vous parlais tout à l'heure, en me mettant en difficulté, y compris personnellement, je veille à organiser le retour en force de la République. Et sur ces sujets, moi, je ne mets pas la poussière sous le tapis.
Mais ce qui est paradoxal, c'est que tout ce que vous dites là, vous l'avez dit aussi à CNews.
En boucle.
Vous l'avez dit en boucle sur tous les plateaux.
Personne ne veut l'entendre. Personne. Vos collègues journalistes ne déconnectent leur cerveau quand j'exprime clairement ce que je suis, ce que je pense. Par ailleurs, mon bilan plaide pour moi, mes actions plaident pour moi. J'ai déjà fait des choses là-dessus. Vous avez un préfet de la République qui n'est pas un homme de gauche, hein,
qui est un préfet.
Qui est un préfet, voilà. Un représentant de l'État qui est exigeant sur le terrain. Qui dit de moi, nous n'avons jamais aussi bien travaillé qu'avec le nouveau maire. L'ancien maire mettait la poussière sous le tapis et refusait de regarder ses problèmes en face et de venir collaborer à la préfecture, avec les services. Eh bien, ça, les journalistes s'en fichent. Ça ne les intéresse pas. Ce qui compte, c'est ce qui va déclencher le buzz sur les réseaux sociaux, c'est ce qui va permettre d'attirer de l'audimat sur leur chaîne, et c'est ce qui est caricatural. Et c'est pour ça qu'on donne la parole à des Elisabeth Lévy, des Van Rioufol, qui vous disent, qui en fait ne flattent pas votre intelligence, qui flattent votre stupidité, qui vous disent, attrape, c'est la charia qui s'applique, la République n'est plus là. Mais moi je demande, et ça fait des mois que je le fais, pourquoi personne ne relayait ma parole à la télé à l'époque, je demande que la police nationale soit présente dans ma ville. Ce n'est pas le cas. J'ai des problèmes de sécurité très lourds et je n'ai pas assez d'effectifs de police. Je vais vous poser une question à vous et à travers vous, à tous ceux qui nous regardent. Voilà. Avez-vous une idée? Je la pose tout le temps, cette question. Parce que je vous avoue, c'est un élément que j'ai découvert en devenant maire. Avez-vous une idée, à l'échelle de la circonscription de police à laquelle appartient Trappes, c'est 165 000 habitants, 9 communes, hein, vous voyez, on est presque à 200 000 habitants. Est-ce que vous pouvez donner un chiffre sur le nombre de policiers présents la nuit? Nombre de patrouilles qui circulent sur 9 communes, 165 000 habitants.
Absolument pas, mais vous allez nous le dire.
Dans le meilleur des cas, quand tous les effectifs sont là, c'est 3 patrouilles pour 9 communes.
Ce qui fait combien, 165 000 habitants. Policiers?
Bah, 9 dans les véhicules, quoi, 3 par patrouille à peu près. D'accord. Donc on est à moins d'une dizaine d'agents de police sur le terrain pour aller traiter les difficultés le soir et la nuit sur le terrain dans une ville comme Trappes. Dans un territoire comme celui-là. C'est insensé. C'est-à-dire que vous, effectivement, là, la République, elle n'est plus présente. Et celui qui le dénonce, c'est Ali Rabet, le premier magistrat de la ville, qui représente la République dans sa ville et qui regrette que la police nationale ne soit pas en effectif suffisant pour faire régner l'ordre et la loi républicaine à Trappes. Je regrette que dans nos collèges, dans nos écoles, dans nos lycées, nous n'ayons pas les enseignants les plus expérimentés, les mieux payés, les plus motivés et mobilisés pour faire en sorte que ces gamins qui ont plus besoin qu'ailleurs d'être accompagnés vers la réussite aient les moyens
vous dites ça et en même temps, le lycée de la Plaine de Naufle, d'après ce que j'ai lu, a une excellente réputation.
Mais oui, c'est voilà. Ça le drame. C'est qu'on progresse.
Bah, c'est pas un drame, c'est bien.
Non, mais c'est le drame de ce que l'on vit en ce moment. Oui. C'est que nous progressons à vue d'œil. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est assez impressionnant, l'espace de 10 à 15 ans, grâce d'ailleurs à la mobilisation des équipes pédagogiques d'abord, des chefs d'établissement qui se sont investis corps et âme, mais on travaille très étroitement. Je racontais par exemple à d'autres de vos confrères, on organise un truc unique en France, entre la ville et le lycée de la Plaine de Naufle. On envoie des lycéens en vacances au mois d'avril réviser intensivement le bac avec des enseignants payés par l'Éducation nationale et des animateurs de la ville de Trappes. Donc on leur fait un séjour d'une semaine où ils se donnent les moyens de réussir le bac et de décrocher la mention, etc. Et on a des résultats puisque les mentions progressent. Chaque année, on en a plus. Chaque année, on a un taux de réussite qui rejoint et même qui dépasse parfois la moyenne nationale. Et on vient expliquer.
Et pourtant, excusez-moi,
les lycéens de la Plaine de Trappes sont tous d'apprentis djihadistes.
Oui, oui. Et pourtant, le témoignage de cette enseignante à Raphaël Baquet et Ariane Chemin disait que depuis l'ouverture d'un autre lycée dans une commune voisine, effectivement, il y a des parents qui tentaient de contourner la carte scolaire en inscrivant leurs enfants dans un autre lycée, ce qui avait effectivement fait baisser le niveau du lycée de Trappes. Voilà,
mais là, on parle d'il y a très longtemps, en réalité. Mmh. Effectivement, à l'époque, on avait un seul lycée sur le territoire, pas sur la ville, au-delà de la ville. Hein. Élancourt, etc., les villes voisines, il n'y avait pas de lycée. Et donc, par définition, tous les enfants de toutes ces communes, plus ou moins bourgeoises, plus ou moins populaires, se mélangeaient dans un établissement, celui-ci. Et le malheur, mais ça date d'il y a 20 ans, Le malheur de l'époque, c'est d'avoir ouvert un établissement dans une... Bon, le malheur, il a fallu le faire parce que les populations augmentent, les villes grandissent, les maires veulent avoir leur lycée. Donc un lycée a été ouvert, puis un deuxième. Et en fait, on est retourné. C'est un peu la malédiction de la carte scolaire quand elle est trop serrée sur des territoires populaires et quand il n'y a pas assez de mixité sur nos communes. Résultat, il y a eu moins de mixité dans le lycée. Mais ça s'est amélioré. Et vous savez, on a même réussi. Je me bats pour ça en ce moment avec l'éducation nationale. Pour développer les spécialités, notamment la spécialité théâtre qui a disparu du lycée de la Plaine de Naufle et dont j'exige qu'elle revienne dès que possible. Et je suis prêt à financer, moi, ce n'est pas mon rôle, mais je suis prêt à financer en partie le fonctionnement parce que ça permet d'attirer des gamins qui viennent d'autres communes et qui choisissent ce lycée pour son excellence.
Alors, le message est passé auprès du rectorat. Alors, on fait un sous-chapitre coiffeur. Donc, dans les arguments, donc, il n'y a plus de coiffeur mixte. Hein, c'est quelque chose que, effectivement, Didier Lemaire a répété à plusieurs reprises et dont vous avez trouvé un mode de réfutation télévisuelle chez Jean-Marc Morandini à CNews.
Alors, on va rentrer. On y rentre
si vous voulez bien, on demande s'il y a des hommes et des femmes qui ont le droit de se faire couper les cheveux ici.
Allons-y. Rentrons chez le coiffeur. Je précise que ce n'était pas du tout prévu. Hein. Mais on le
fait. Ah oui, bah, je suis un maire de terrain.
Il n'y a pas de souci, on est sur le terrain. Allez-y.
Est-ce que je peux vous interrompre une seconde, madame? Ah, je suis désolé, madame, si vous voulez vous tourner, si vous ne voulez pas qu'on vous prenne en vidéo, c'est possible. Je suis en direct avec Jean-Marc Morandini. Bah, vous pouvez me regarder si vous le souhaitez, madame. J'ai une question à vous poser. C'est plutôt pour votre cliente que je voulais. Nous sommes ici chez vous. Vous êtes coiffeur à Trappes. Je voulais savoir si vous êtes un coiffeur mixte ou réservé aux hommes ou réservé aux femmes.
Un salon mixte.
Vous êtes dans un salon mixte et donc n'importe qui peut venir et vous avez des clients, hommes et femmes.
Tout à fait.
Ben voilà, parce qu'on dit le contraire à la télévision et c'est rassurant de pouvoir vérifier que c'est le cas.
Et vous avez bien fait.
Merci beaucoup, mesdames.
Vous avez bien fait, bravo, monsieur le maire.
Vous confirmez que ce n'était pas prévu? C'est-à-dire le Morandini ne savait pas que... Parce que le début de l'interview se passe devant la vitrine de ce coiffeur, donc vous n'êtes pas allé devant la vitrine de ce coiffeur par hasard.
Absolument. En fait, on m'appelle quelques minutes avant. Moi, je me précipite, je monte en voiture, on me dépose devant le salon de coiffure et une collaboratrice me dépose devant le salon de coiffure. Et en direct, je me dis, au lieu d'affirmer de mon bureau qu'il y a des coiffeurs mixtes à Trappes, allons chez un coiffeur mixte à Trappes.
Mais vous dites ça au caméraman de Morandini? Quand vous êtes déjà devant, comment ça se passe?
Non, je le dis pas au caméraman, parce que là, c'est moi-même avec mon téléphone. Hein,
ah, c'est vous qui vous filmez, là?
Oui, ben, ça se voit, d'ailleurs.
D'accord.
Vous voyez que je tiens le téléphone, que c'est quand même...
D'accord.
Donc, non, je préviens l'équipe de Morandini en leur disant, mais attendez, moi, je vais sur le terrain directement, vous voulez me parler des coiffeurs mixtes? Enfin, devant le grotesque de la situation, j'ai choisi de retourner leurs propres armes contre eux. Et donc, je vais sur le terrain en direct pour démentir leurs allégations par des faits, pas par ma parole, encore une fois, dans mon fauteuil, sur le terrain. Vous voyez, là? À l'image, on voit que j'ai des cheveux quand même assez fournis. Là, vous voyez que je suis passé chez le coiffeur hier, pour rien vous cacher. Et j'étais dans un autre salon de coiffure, plus près de la mairie, celui-là. Et pendant que je me faisais couper les cheveux, il y avait une dame à côté qui avait sa coloration en cours et qui se faisait colorer les cheveux.
Parce que c'était un coiffeur mixte.
Parce que c'est aussi un coiffeur mixte.
Un des quatre coiffeurs mixtes. De Trappes.
Mais est-ce que c'est normal?
Sur 18.
Moi, je n'ai jamais compté. J'ai vu Didier Lemaire dit 17, vous dites 18, il y a d'autres qui disent 11. Mais vous savez que partout en France, là, on est à Paris. Si vous voulez, on sort ensemble. Il y a des barbeurs, il y a des coiffeurs qui ne coupent que les cheveux des hommes.
Alors,
on n'a jamais vu une forme de séparatisme à cause de cela.
Alors, vous parlez de barbeurs. Et effectivement, cette histoire de coiffeur a donné matière à CNews, à tout un feuilleton de vérification et de contre-vérification du vendredi au lundi. On suit le feuilleton.
On a un coiffeur qui est juste en face, là. On va rentrer... Chez ce coiffeur, si vous voulez bien, monsieur le maire. Je vous pose la question autrement, un peu plus directement. Est-ce qu'il y a un problème avec la religion quand on va chez le coiffeur? Est-ce qu'il n'y a pas de mélange?
Pas du tout, non. Nous, on accepte tout le monde, encore une fois. Il n'y a aucun problème. Donc, il y a des femmes et des hommes qui viennent chez moi tous les jours, que ce soit sur Trappes ou on a un deuxième salon sur Guyancourt. Et on ne se pose vraiment pas ce genre de questions chez nous.
J'ai un peu l'impression, depuis le début de cette interview, d'être au village Potemkin. C'est-à-dire qu'on nous a montré un certain nombre de choses. Le coiffeur du début, par exemple, qui dit qu'il est mixte, quand on va sur Internet, il y a marqué réservé aux hommes.
Nous avons donc voulu, bien sûr, vérifier ce qu'il disait. C'est aussi notre travail de journaliste. En toute transparence ce matin, Kin, que faut-il retenir?
Lorsqu'on zoome un peu plus sur la page d'accueil, c'est affiché s'il s'agit d'un salon mixte. Alors, ce n'est pas flagrant. La page a été réactualisée il y a à peine quelques jours, car si on remonte le temps, regardez Thomas, le 9 février, sur le même site, était indiqué salon de coiffure et barbier exclusivement masculin.
On a voulu tester les choses et je vais demander de faire appeler une de nos journalistes, justement pour savoir si on pouvait réserver, si on était une femme dans ce salon.
Absolument. L'une de nos collaboratrices a téléphoné samedi pour sa fille qui, dans notre scénario, souhaitait se faire faire une couleur. Et non seulement ça n'a semblé poser aucun problème, mais effectivement, notre cliente fictive s'est vue proposer les soins d'un spécialiste en couleur.
Bon, bref, apparemment, vous avez gagné le match. Au jour d'aujourd'hui, vous avez gagné le match. Non, moi,
j'aurais préféré ne pas le jouer, ce match. C'est grotesque.
Vous n'auriez pas dû le jouer ?
Non, j'aurais préféré ne pas avoir à jouer un match sur les coiffeurs à Trappes. Ouais. Oui, j'aurais préféré qu'on vienne me parler de la sécurité, de la réussite scolaire.
Non, mais il se trouve que c'est comme ça. Le système est celui-là. Ça s'appelle CNews, ça s'appelle Morandini, ça s'appelle les chaînes d'infos. C'est comme ça. Et moi, pourquoi je vous ai invité ? C'était la première fois.
Et si vous avez fait ce travail-là en amont, ce serait économiser le ridicule.
Mais c'est comme ça.
C'est comme ça. Il faudrait que je m'habitue alors.
Bon, et c'était la première fois que je voyais effectivement la tentative de tenir une contre-narration, un contre-discours avec le langage du discours caricatural, c'est-à-dire avec le direct, avec l'image choc, l'image qui va essayer de convaincre, etc. Bon, ce que vous me dites, ce que vous êtes en train de me dire là, c'est que ça ne sert à rien, en fait.
C'est que ça dévoile, ça ne sert pas à rien, mais j'ai contribué à dévoiler le fonctionnement grotesque et caricatural de ces chaînes d'info continue.
Avec leur langage.
Avec leur langage, et en retournant la situation contre eux, en faisant du judo. Mais ce que ça doit indiquer, et ça doit sonner le tocsin à un moment donné, c'est de la remobilisation dans le monde des médias, dans le monde des intellectuels de ce pays, dans le monde politique. On va continuer longtemps à accepter cette trumpisation de la vie politique française et médiatique. On va continuer longtemps à tolérer que la désinformation soit la règle, que les Français soient abreuvés de discours stupides et caricaturaux avec des gens qui éruptent sur les plateaux télé.
Qu'est-ce qui est le plus efficace à ça ? Qu'est-ce qui est le plus efficace contre CNews, contre Zemmour, contre Bolloré, etc. Non, mais qu'est-ce qui est le plus efficace ? Une dénonciation par les intellectuels, ou par Arrêt sur Image, ou par qui vous voulez, ou effectivement d'aller les chercher sur leur terrain, avec leur langage Non, mais c'est une vraie question.
Vraiment, je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que je suis... en même temps, j'arrive dans une séquence où je suis protégé personnellement, physiquement et psychiquement fatigué par tout ce que j'ai vécu, et je ne suis pas lucide pour vous répondre. Je ne suis pas lucide pour vous dire si ma participation à toutes ces séquences a été utile ou pas. Ce que je mesure, c'est que j'ai reçu des milliers de messages de menaces de mort, d'insultes racistes, etc. Ça a été très très éprouvant les premiers jours. Mais je mesure aussi qu'au fur et à mesure que j'intervenais et que je répondais pied à pied et que je tentais de rétablir la vérité dans un magma de mensonges, je recevais des centaines et même des milliers de messages, d'abord de trappistes, et puis après très au-delà, dans la France entière, même à l'étranger, de personnes qui me disent « tenez bon, courage, ne lâchez rien, ils veulent vous abattre, etc. » Mais continuez à tenir.
C'est déjà un signe.
Et voilà, je veux retenir ce signe-là, qui m'a d'ailleurs aidé à me remettre debout dans cette séquence violente que j'ai vécue, parce que je me dis que je ne fais pas ça pour rien. Mais il y a quand même un moment où vous êtes tout seul face à la meute des loups. Et dans ce moment-là, y compris parmi les journalistes, vous vous dites, mais où sont les esprits éclairés ? Où sont les journalistes sérieux qui font leur travail ? Alors, ils ont fini par arriver. On a eu des articles du Monde, y compris du Figaro, d'autres médias, de Libération, de Mediapart, qui a fait une vraie enquête construite, qui dévoile des faits et de la réalité.
Non, mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils arrivent 3 jours après.
Mais ils arrivent, mais vous êtes sympathique.
Non, mais voilà.
5 jours, pour être précis. Sauf que pendant 5 jours, c'est très, très violent ce que vous subissez.
Non, mais c'est pour ça, j'y reviens, puis après on parle d'autre chose, c'est pour ça que moi j'ai été très impressionné par votre capacité à répondre en direct. Ben puisque, je veux dire, là, on est 2 heures après le passage de Didier Lemaire chez Pascal Praud. Hein.
C'est ça.
C'est ça, il passe tôt le matin chez Pascal Praud et 2 heures après, vous êtes chez Morandini, chez le coiffeur.
Absolument.
Alors,
vous savez, juste, c'est suite, notamment à ces séquences, que les menaces de mort se sont multipliées. Parce que j'ai résisté, en réalité. Et que beaucoup vous disent, dans ces moments-là, il vaut mieux ne pas résister, faire un pas de côté. Il vaut mieux accepter la calomnie, ça finit par passer. Et après, vous retournez à votre quotidien.
On vous a vraiment dit ça ?
Des amis, hein, je ne vous parle pas d'adversaires ou des amis politiques m'ont dit il vaut mieux, pour éviter des coups, de protéger.
On vous a dit tu as eu tort d'aller chez Morandini ?
Oh, il y en a qui me l'ont dit, bien sûr. Les journalistes me demandent est-ce que vous regrettez d'être allé chez Morandini, etc.
Ah ouais ?
Évidemment, bien sûr, tous les jours. Encore ce matin, avec un de vos confrères.
Alors, l'épisode du tract, puisque l'épisode suivant, normalement, c'est le tract. Vous pouvez raconter ce qui s'est passé ?
Cette histoire est pour moi la révélation d'à quel point le cynisme politique peut, avec la complaisance des médias, aboutir à créer un contre-feu, une affaire dans l'affaire, précisément au moment où la réalité des faits commence à être établie. Au moment où Didier Lemaire commence à reconnaître lui-même ses mensonges. Et au moment où des journalistes finissent par dire la vérité.
Alors, Ali Rabel, les faits avant le commentaire.
Bah, j'y viens.
Qu'est-ce qui se passe?
Ah, moi, je ne suis pas journaliste, donc je commence par donner mon
sentiment. Enfin, vous étiez aux premières loges.
Et ensuite, je reviens aux faits.
Vous étiez aux premières loges.
Dès lundi, la polémique commence vendredi soir. Dimanche, Didier Lemaire fait les plateaux télé. Lundi matin, qu'est-ce que je fais comme maire? Je vais dans le lycée lui-même. J'appelle le proviseur, j'y vais, je lui dis mon soutien. Je salue les équipes.
Attendez, excusez-moi, vous dites ça sur le ton de l'évidence.
Ah, c'est pour moi une évidence.
C'est une évidence que le maire de la ville aille dans le lycée.
Oui, tout à fait. La preuve, c'est que j'y vais depuis des années, même quand j'étais adjoint au maire, rendez-vous compte. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré pour la première fois, qu'on m'a présenté pour la première fois Didier Lemaire. C'est parce que comme maire adjoint, comme tous les élus de France, demandez à n'importe quel maire, nous sommes invités par les établissements à nous rendre au sein du lycée, à rencontrer des élèves, à financer des projets. C'est ce que nous faisons toute l'année. On n'attend pas les moments comme celui-là pour le faire. Et c'est tellement vrai que je suis, comme maire, officiellement membre du conseil d'administration du lycée.
Donc, le lundi
matin, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Administrateur du lycée. Je ne suis pas un étranger qui pénètre dans un lycée.
Comme tous les maires de France, dans tous les lycées de France. Donc, le lundi matin, vous allez à l'intérieur du lycée. Mais alors, c'est vous qui distribuez ce tract.
Attendez. Vous me demandez les faits, donc on y va dans l'ordre. Ce tract, qui n'est pas un tract, mais une lettre dont je suis très fier, qui a été rédigée avec ma première adjointe, qui est professeure d'histoire-géographie, en lycée public, tout près de Trappes d'ailleurs, et qui est une très belle lettre d'espoir et de bienveillance en direction des élèves, je la distribue avec des adjoints qui viennent la distribuer devant le lycée, et pas à l'intérieur du lycée, contrairement à ce que raconte le ministre Blanquer, jeudi. Mais je n'y vais pas jeudi pour la première fois, j'y vais lundi.
Attendez, elle est distribuée le jeudi précédent ou le jeudi suivant votre visite au lycée?
Justement, j'y vais dans l'ordre. Donc, les faits commencent le vendredi 5.
Ouais.
Le lundi 7, donc 3 jours après, je vais dans l'établissement parce que c'est normalement la journée.
Donc le 8.
Pardon, le
5 et 3, 8.
8, vous avez raison, vous êtes meilleur que moi en mathématiques. Donc, lundi 8, l'inquiétude en fait du maire que je suis, du chef d'établissement, c'est le retour de Didier Lemaire dans cette atmosphère explosive peut-elle générer des tensions? Et donc j'y vais pour apaiser justement et pour dire aux élèves: votre enseignant a le droit de dire ce qu'il veut, que ce soit dans le lycée ou dans les médias, et vous n'avez pas à vous opposer à lui ou à exprimer par une quelconque virulence votre désaccord.
Alors le texte, chacun a le droit de s'exprimer, je me battrai pour que même celui avec qui je suis en désaccord puisse le faire, mais je n'accepte pas les propos violents tenus contre vous et les trappistes qui condamnent par avance, qui relèguent, qui excluent.
Et ça, c'est même pas d'ailleurs en référence aux propos de Didier Lemaire lui-même, mais en référence au torrent d'injures, de délires, de caricatures qui se sont justement développés sur les plateaux des chaînes d'information continue. C'est-à-dire, toute la journée de dimanche, on a dû subir les immondices de quelques chroniqueurs qui s'en donnaient à cœur joie. Donc j'y vais le lundi, il n'y a pas cette lettre à ce moment-là. Et je discute avec les élèves, moi, le chef d'établissement, des enseignants qui sont présents, le personnel de l'établissement, de façon, comme d'habitude, ils ont l'habitude de me voir, apaisé et tranquille. J'y retourne le mardi, puisque le lundi, Didier Lemaire ne vient pas dans l'établissement. Mais le mardi, il est censé revenir. Finalement, on nous annonce qu'il ne vient pas. J'y vais le mardi, de nouveau. Je fais le tour de l'établissement avec le chef d'établissement qui me présente les derniers investissements, les réussites de l'établissement. Et en fait, on parle aussi de la suite et de l'avenir et de comment on se redresse après cet épisode calamiteux. Et de nouveau, je rencontre des élèves. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc vous voyez, finalement, le jour où on distribue cette lettre, ce n'est que le jeudi, mais ça fait déjà
suivant,
deux
fois. Suivant, c'est-à-dire...
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, lundi, mardi, j'y vais et j'y retourne jeudi. Et j'annonce mardi...
Et elle est distribuée à l'extérieur de
l'établissement. À l'extérieur de l'établissement, tout à fait.
Bon, alors cela dit...
Preuve à l'appui.
Voilà. Fondamentalement, est-ce que, effectivement, cette polémique n'aurait pas dû rester à l'extérieur de l'établissement? Et est-ce que c'était une bonne chose d'aller dans l'établissement pour un élu politique, pour en discuter avec les enseignants?
Mais je crois que c'était mon rôle et mon devoir, en fait.
Et les élèves.
Je crois que c'était mon devoir. Et vous savez ce qui m'a frappé quand je discutais avec les élèves dès le lundi, dès le premier jour du déclenchement de l'affaire, c'est que les élèves n'étaient pas énervés, n'étaient pas virulents, contrairement à mes craintes d'ailleurs. C'est là qu'il y a un décalage générationnel entre eux et moi. Ils étaient abattus en fait. Ils étaient inquiets pour eux-mêmes. Ils avaient peur de l'avenir et leur sujet c'était: est-ce que, avec le système admission post-bac, là, est-ce qu'on va me discriminer l'année prochaine quand je chercherai à avoir telle ou telle formation? C'est: est-ce que je vais réussir à trouver un boulot en disant que je viens de Trappes? C'était ça leur discours. D'ailleurs, un discours assez, entre guillemets, égoïste, au sens se centrer sur soi-même et se demander les conséquences sur soi-même de cette affaire, plutôt que polémiquer avec un enseignant qui dit bien ce qu'il veut. Et quand j'en ai parlé au chef d'établissement, de ma volonté de leur faire un message d'espoir, en fait, en leur disant, c'est écrit dans le texte, concentrez-vous en gros sur votre avenir, sur vos études, ne vous laissez pas détourner de vos objectifs, c'est-à-dire la réussite scolaire. Je leur écris ça dans cette lettre. Et le chef d'établissement me dit que c'est une très bonne idée et qu'il faut le faire. D'accord. Et c'est pour ça que le jeudi, on va la distribuer sans aucune agressivité, sans aucun problème. Et on a parlé d'intrusion, rendez-vous compte. Est-ce que vous croyez que des policiers qui gardent un établissement auraient laissé quelqu'un s'introduire de force?
Il était gardé par la police?
Bien sûr. Depuis une semaine, malheureusement, depuis cette histoire, on a des effectifs de police en tenue, en armes, devant la grille du lycée. Imaginez pour les lycéens qui rentrent dans l'établissement l'atmosphère.
Bref, si c'était à refaire, vous le referiez?
Mais absolument. Et par ailleurs, j'ai offert les croissants que j'ai achetés auprès des élèves du conseil de la vie lycéenne qui financent leur projet. J'ai offert les croissants à des collègues, à des enseignants, à des gens qui étaient présents, à des membres du personnel.
Alors faites gaffe avec ce genre de trucs, hein. Faites gaffe avec les cadeaux, hein.
C'est une tentative de corruption.
Non, mais faites gaffe.
50 centimes les deux croissants.
Faites gaffe avec les cadeaux, parce que ce qu'il faut dire, on ne l'a pas dit depuis le début de l'émission, c'est que l'élection municipale de Trappes a été annulée en première instance. Et pourquoi elle a été annulée? Parce que pendant la campagne, vous avez, en tant que dirigeant d'une association humanitaire, offert des masques aux habitants, masques auxquels était joint une feuille portant votre portrait. Et donc le tribunal a considéré en première instance que c'était pas bien de faire ça pendant une campagne électorale. Donc,
exactement.
Pour l'instant, vous êtes encore maire, vous êtes maire en sursis et vous avez fait appel devant le
Conseil d'État.
Devant le Conseil d'État.
Comme vous le voyez, il n'y a pas une photo, il y a deux photos parce que nous étions deux associations solidaires sur ce projet.
Mais n'empêche qu'il y a la vôtre. Hein.
Bah oui, il y a la mienne. Mais d'ailleurs, on me le reproche et je peux l'entendre. Vraiment, je peux l'entendre. Mais vous savez, c'est comme un match de foot. Je ne sais pas si vous aimez le sport, mais il y a la première mi-temps et la seconde mi-temps. Et on décide qui a gagné le match uniquement à la fin de la seconde mi-temps. Et le Conseil d'État, c'est lui qui décidera. Est-ce que cette élection mérite d'être rejouée ou pas? Et je peux vous assurer que même si elle était rejouée, je suis assez serein. Je suis pas...
Dans les multiples arguments de Didier Le Maire, l'incendie de la synagogue de Trappes, on va revenir sur ce chapitre qui pose des questions médiatiques intéressantes.
En 18 ans, en 20 ans à Trappes, j'ai vu une évolution fantastique de la société. Les Juifs sont partis. Je suis arrivé en l'an 2000. Mm. La synagogue a brûlé. Les Juifs sont partis. Ensuite, ça a été l'exode d'autres populations. Et puis, à présent, maintenant, ce sont les musulmans modérés, en fait, qui s'en vont.
Bien sûr.
Et les athées. Il y a 20 ans, c'était les Juifs, c'était la synagogue qui brûlait, c'était les Juifs, puis un peu plus tard, les Portugais qui s'en allaient. Aujourd'hui, ceux qui s'en vont, ce sont les musulmans modérés et les athées. Quand je suis arrivé à Trappes en 2000, la synagogue a brûlé, les Juifs sont partis. Ensuite, ce sont les Portugais qui sont partis. Et aujourd'hui, ceux qui partent, ce sont les musulmans modérés et les athées.
Dans le discours de Didier Le Maire, donc la synagogue a brûlé, les Juifs sont partis. Il ne dit pas clairement que l'incendie était criminel, mais enfin, il le laisse clairement entendre dans la manière dont c'est répété. Juste, pour ceux qui ne se souviennent pas, parce que c'était il y a 21 ans, l'incendie de la synagogue de Trappes, le journal de 20h de l'époque.
Comme un tropisme malsain, l'effet des violences au Proche-Orient depuis 10 jours se traduit en France par d'autres violences, d'autres attentats. Les organisations juives et musulmanes de France appellent bien à éviter tout dérapage en évoquant la nécessité de la sagesse et du dialogue. Mais hier soir, c'est une synagogue à Trappes dans les Yvelines qui a été détruite. L'origine criminelle ne fait aucun doute. Cet acte condamné par Jacques Chirac et le Premier ministre survient après d'autres commis contre des lieux juifs depuis quelques jours. Reportage Gilles Marinet et Guillaume Fautra.
C'était la synagogue de Trappes. Les pompiers n'ont pas pu sauver ce pavillon de 2 étages. Hier soir, à 21h30, un bidon incendiaire déposé dans l'entrée a propagé les flammes, aidé par un vent violent. Seuls, ces rouleaux, les objets du culte, ont été préservés. La veille, la majorité de la petite communauté de Trappes était réunie dans la synagogue.
De ce que vous savez vous-même, en tant que citoyen de Trappes, en tant que maire de Trappes, s'agissait-il d'un incendie accidentel ou criminel?
Mais moi, je ne sais rien, en fait, sur cette affaire. Déjà, parce que je le répète, ça fait 15 ans à peu près à l'époque. Et parce que je ne sais que ce qu'en disent vos confrères. Et ce qu'en dit le procureur de la République, qui a diligenté une enquête. Et les conclusions de cette enquête. Et donc, c'est public, d'ailleurs. Il y a des articles de presse de l'époque qui sont toujours en ligne, de Libération, du Monde, de tous ceux qui ont enquêté.
Donc, la conclusion judiciaire, c'est incendie accidentel par un veilleur de nuit ou un employé.
Par un gardien, parce qu'en fait, c'est un pavillon qui est des propriétés d'un bailleur social, qui le prêtait au culte israélite sur la ville. Et donc, il y avait un gardien. Et ce gardien, au terme de l'enquête, reconnaît avoir été alcoolisé et avoir laissé une cigarette enflammée qui a généré l'incendie et brûlé la synagogue. Mais il y a d'autres versions.
Alors,
la justice a retenu celle-ci. Est-ce que la justice ment? C'est pas un maire qui aura expliqué que la justice s'est trompée ou a menti sur cette affaire. Mais est-ce que la justice s'est trompée? On peut imaginer que ce soit possible. Alors moi, je suis incapable de vous dire, est-ce que cette synagogue, ou appelons-la comme ça, a été incendiée volontairement ou accidentellement?
Alors, quand vous dites qu'il y a d'autres versions, il y a notamment une version médiatique, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'une version, mais d'une conviction, qui est la conviction, encore une fois, des deux autrices de ce livre, La Communauté, Raphaël Baquet et Ariane Chemin. Et j'avais posé la question à Ariane Chemin à l'occasion de la sortie de ce livre. Dans le livre, il y a deux lignes, alors il faut bien aller chercher dans le livre, hein, mais il y a deux lignes dans lesquelles vous racontez que Lafouine, donc le rappeur, a été mis en garde à vue et qu'il a reconnu des gamins de trappe se vantant devant lui d'être les auteurs de l'incendie de la synagogue, mais qui s'est tu et que, voilà. On ne va pas revenir sur l'affaire qui a finalement peu d'intérêt.
Sauf qu'on a toujours dit que c'était un accident et que ce n'était pas un accident quand même. C'est ce qu'on raconte dans le livre, hein. C'était pas un accident, c'était vraiment une mise à feu volontaire.
Mais ça, c'est judiciairement établi?
C'est raconté sans que personne n'ait vu, au détour d'un livre très récent, une autobiographie qui a écrite Lafouine lui-même.
Oui, enfin, où il dit simplement que des jeunes sont venus se vanter auprès de lui de l'avoir fait. Ce qui ne veut pas dire qu'ils l'ont fait. On peut se vanter.
On ne peut pas accepter, comme l'a proposé la police, la tête de l'accident. On ne peut pas se contenter de ça. Surtout quand vous avez un des témoins qui dit « Je dois le dire aujourd'hui, je ne l'ai pas dit en garde à vue, mais je sais qu'il y a incendié la synagogue, pourquoi voulez-vous qu'il mente ?» En tout cas, nous, on rapporte ce qu'il a dit dans le livre.
Vous avez tenté d'aller plus loin?
Bah, j'ai tenté.
Et de retrouver ces jeunes qui s'étaient vantés auprès de Lafouine d'avoir incendié la synagogue?
Écoutez, je vais vous dire, je pense savoir qui c'est, mais jamais je l'écrirai et jamais je le dirai.
Mais vous pensez savoir, c'est-à-dire que vous avez rencontré ces personnes?
Non, mais je pense savoir qui c'est et jamais je l'écrirai et jamais je ne le dirai.
Mais vous avez leurs identités, vous connaissez leurs identités?
Je connais, non, je n'en suis pas sûre, donc comme je suis journaliste, je ne le dis pas.
Non, mais je ne vais pas vous les demander, je ne vous les demande pas. Mais vous connaissez les identités de ces personnes dont vous pensez qu'elles sont responsables?
Je pense qu'il y a un phénomène en banlieue qui est peu raconté, qui est le phénomène des indics. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des choses très très mal et puis après on ne les sent pas inquiétés parce qu'ils deviennent indiques. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
Vous n'avez pas vu l'extrait?
Non, il est édifiant. Je ne sais pas quoi.
En quoi il vous édifie?
Bon, parce que déjà c'est un échange assez musclé, hein, on va dire. Oui. En tout cas, où on rentre dans le détail des faits, des convictions, des certitudes, des preuves, des enquêtes.
Ça s'appelle une interview.
Ça s'appelle une... Vous savez, pas trop l'habitude d'avoir des interviews qui vont au bout des choses en ce moment. Elle affirme des choses quand même qui sont...
Elle avance une hypothèse. Ce qui se passe, c'est qu'elle s'affirme convaincue d'une hypothèse, de l'hypothèse qu'effectivement la bande de jeunes qui s'en étaient vantée auprès de Lafouine à l'époque sont bien les coupables et que la raison pour laquelle ils n'ont pas été inquiétés ni par la police ni par la justice, c'est que c'était des indices de police, c'est-à-dire qu'ils donnaient des renseignements à la police. Voilà son hypothèse.
On parle quand même d'un fait qui génère un certain nombre de fantasmes depuis 20 ans et qui est quasiment le socle de l'argumentation d'un Didier Lemaire et d'autres personnes qui expliquent que cette ville est en transformation depuis l'incendie de cette synagogue, que cette ville a donc quelque part chassé les juifs de son sein, ce qui n'est pas vrai, il y a toujours des juifs à Trappes, Dieu merci, heureusement, qu'elle aurait chassé, on entendait Didier Lemaire, les Portugais, j'ai deux associations de Portugaises, pourquoi pas les Bretons, j'ai un grand cercle celtique à Trappes.
Vous dites qu'il y a toujours des juifs, on peut évaluer le nombre
non.
de...
Non mais... Heureusement d'ailleurs qu'on ne peut pas évaluer le nombre de juifs dans ce pays, parce que je veux dire, ça m'inquiéterait beaucoup.
Mais il y a eu des départs. Le fait qu'il y ait eu des départs est réel.
Moi, je pense que cet incendie, accidentel ou criminel, peut-être qu'on ne le saura jamais d'ailleurs. Mais cet incendie, forcément, psychologiquement, dans la psychologie collective de la communauté juive, a dû être un traumatisme et a dû, pour certaines familles, certains foyers, les amener à sortir de la ville de Trappes. Mais entre-temps, vous savez, il y a des gens qui sont installés à Trappes et qui sont de confession juive et qui ne le crient pas partout. Je le sais parce qu'on le voit aussi dans nos écoles, parce qu'il y a des enfants qui veulent manger kasher, qui veulent manger halal, etc. Nous, on ne connaît pas tout ça. On fait manger aux enfants la viande que propose la ville. Ils peuvent choisir un repas végétarien, mais il n'y a pas de kasher, il n'y a pas d'halal, il n'y a pas tout ça. Mais il y a des enfants juifs, je vais vous dire.
Il n'y a pas de repas kasher ni halal dans les écoles?
Encore que non. Il n'y en aura jamais, tant que je serai maire en tout cas. Je ne suis pas là pour faire des repas par communauté ou par groupe d'individus. Mais j'ai un ami qui n'en est malheureusement plus un dorénavant, mais qui est de confession juive, dont les enfants sont de confession juive, qui était avec moi adjoint au maire sur le précédent mandat, et qui travaille aujourd'hui au cabinet de Marlène Schiappa. Mais il habite toujours à Trappes, à ma connaissance. Donc, il n'a pas quitté la ville pour aller à Maurepas. Revenons sur les faits et cette affaire d'incendie. Moi, je souhaiterais connaître la vérité là-dessus, parce que vous voyez, ce n'est pas la même chose, y compris pour le maire que je suis, de me dire, il y a eu un incendie accidentel et on fantasme sur cet incendie depuis des années, quitte à multiplier les contre-vérités, ou si on me dit, avec preuve à l'appui, et c'est ce que semble dire Ariane Chemin, cet incendie n'est pas accidentel, il est criminel et il aurait pu être commandité. Et si en plus on me dit, et là ça vaut une fiction américaine, si en plus on me dit les exécutants ou les commanditaires, je ne sais pas, sont devenus des indiques et sont couverts par la police.
Ou étaient déjà des indiques.
Ou étaient des indiques, mais sont couverts par la police. Là, vous vous rendez compte, on est dans un truc digne d'une série américaine. Maintenant, je demande quelque chose formellement.
Est-ce que vous demandez la réouverture de l'enquête ?
J'allais le dire. Dans ce cas-là, si vraiment il y a des faits nouveaux, le témoignage de ce rappeur originaire de Trappes, etc., eh bien, demandons, et franchement, ce serait s'honorer en la justice de ce pays que de le faire, demandons la réouverture d'une enquête pour prendre des faits nouveaux, reprendre le dossier de l'époque et essayer de trouver la vérité. Parce qu'on a besoin de la vérité, ne serait-ce que pour nous, trappistes, savoir ce qui s'est passé dans notre commune et solder cette affaire définitivement.
Alors, il est l'heure de... Je vous avais promis au début de l'émission qu'on avait un invité surprise. Il est l'heure de découvrir qui est cet invité surprise. Emmanuel Sanders, bonjour.
Bonjour.
Alors, l'invité surprise, c'est vous. Vous suivez l'émission depuis le début, même si on ne vous a pas vu ni entendu. Alors, qui êtes-vous ? Vous êtes un membre ou un militant d'une association juive qui s'appelle les Juives et Juifs Révolutionnaires, donc qui est une nouvelle association, hein, on peut le dire comme ça, et qui s'est signalée médiatiquement dans les derniers jours en organisant un rassemblement de commémoration dans un square parisien à l'occasion du 15e anniversaire de la mort de l'assassinat antisémite de Ilan Halimi. Voilà, alors on peut voir là les images de ce rassemblement. Il y a une banderole, il y a les photos d'un certain nombre de victimes juives de meurtres antisémites dans les dernières années. Et ce qui a été particulièrement remarqué, c'est que au cours des prises de parole qui ont eu lieu dans ce rassemblement, ont été cités les noms de victimes juives d'actes antisémites, mais aussi des noms d'autres victimes d'actes racistes, et notamment le nom d'Adama Traoré. Pourquoi avez-vous souhaité associer le nom d'Adama Traoré, par exemple, entre autres, à la commémoration de la mort d'Ilan Halimi ?
Alors, tout d'abord, je tiens à dire que... bonjour à tout le monde. Je tiens à dire que le rassemblement a été co-organisé avec Mémorial 98, le collectif des Juifs Vénères, et le RAR, le réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes. Et on a décidé, en organisant ce rassemblement, qu'il était important de créer un renouveau du mouvement antiraciste qui inclut largement l'antisémitisme comme une de ses composantes. Et pour pouvoir créer ce mouvement, on a eu envie d'inviter très largement des organisations juives, des organisations politiques, syndicales, associatives. Et on a eu un grand nombre de signataires. D'autres qui nous connaissaient moins bien ont dit « bon, ben, on va venir ». On ne vous connaît pas, on ne signe pas encore, mais on est intéressé par votre démarche. Et notre démarche, c'est celle de créer un front antiraciste. Ce n'est pas juste, c'est de recréer ce minimum qui aujourd'hui, malheureusement, ne fait pas simplement consensus. Et donc, dire les noms des 10 personnes tuées en tant que juives après 2006 et inclure aussi des personnes tuées par tuer en tant que Roms, Asiatiques, Noirs, Arabes, ça nous paraissait important pour inclure ce combat.
Alors, non seulement ça ne fait pas consensus, mais je veux dire, ça a quand même déclenché des sacrées réactions. Il faut dire que vous n'y êtes pas allé de main morte, hein, puisque, au cours de ce rassemblement et dans vos différentes prises de parole, alors déjà, vous avez tapé à bras raccourcis sur les instances de la communauté juive, à commencer par le CRIF, hein, Conseil représentatif des institutions juives de France, à travers son soutien à Israël. Mais d'un autre côté, vous avez tapé aussi sur un certain nombre de collectifs et de mouvements, on va dire, d'extrême-gauche ou d'ultra-gauche, dont vous considérez qu'ils ont pratiqué le déni par rapport à l'antisémitisme dans les 15 dernières années, notamment en rapport avec le conflit au Proche-Orient. Vous avez tapé de tous les côtés, en fait.
Alors, je tiens à préciser quand même que, juste par rapport à juste avant... on nous l'a beaucoup reproché par rapport à Adama Traoré. Il ne s'agit pas de tirer un trait d'égalité entre les deux crimes. D'accord ? Il s'agit de mettre ensemble des gens pour lutter contre le racisme. Voilà, c'est une précision qui a son importance. Et pour vous répondre, on n'a pas tapé sur le CRIF. On n'a pas de raison de le faire pour le moment.
Sur Twitter, en tout cas, les institutions juives en prennent pour leur grade.
Certaines, effectivement, mais jamais sur la question israélo-palestinienne, pour une raison simple, c'est que notre collectif s'est formé pour pouvoir répondre à la question de l'antisémitisme, d'où qu'il vienne, en France. Et justement, on tient à faire la différence entre ce qui se passe en France et ce qui se passe au Proche-Orient. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes sortes de positions sur ce qui se passe au Proche-Orient. Il s'agit de lutter contre le racisme, il s'agit de lutter contre l'antisémitisme en France, là où on est.
Et ce qui est important, c'est le d'où qu'il vienne. Alors, après le rassemblement, un des membres de votre mouvement, des Juives et Juifs révolutionnaires, a été invité par la chaîne israélienne I24 News, notamment avec le complotiste français André Berkoff, habitué des chaînes françaises d'info continue. Et voilà un petit extrait de ce qui s'est passé.
La journée de la commémoration d'hier. Alors je parle au nom du réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes, le RAR, qui a organisé une commémoration en l'honneur de la mémoire des 15 ans de la mort d'Ilan Halimi, Zichrono Livracha. Hier, après qu'on ait raconté l'histoire d'Ilan, nous avons lu le nom des 10 personnes tuées parce que juives depuis 2006.
Vous étiez où pendant 15 ans? Parce que vous venez de préciser que c'était la première fois que vous étiez là. Vous étiez où les 15 années d'avant?
Monsieur Knoll, le fils de Madame Knoll, nous a rejoint pour tenir le portrait de sa mère, tuée parce que juive. Zal, nous avons lu également le nom de 10 autres personnes victimes de crimes racistes. Et nous avons expliqué la nécessité de lier la lutte contre l'antisémitisme à celle de tous les racismes, car nous le voyons, tous les racismes sont en augmentation et se nourrissent les uns les autres. Oui, nous
voyons un tel mélange.
Le tueur de juifs.
Joseph, madame, pardon. Si nous vous invitons sur ce plateau, c'est pour dialoguer. C'est pas pour parler tout seul.
C'est ça. Le tueur de Pittsburgh.
Et si Joseph, madame, pardonnez-moi. Joseph, est-ce que vous m'entendez?
Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi.
Non, pardonnez-moi. C'est un débat ici. Donc on vous pose des questions, on échange, mais vous parlez pas tout seul. Vous ne m'avez même pas laissé le temps de vous présenter.
De Pittsburgh.
Joseph Ben Abraham, pardon, vous n'êtes pas là pour lire un communiqué.
Alors juste sur le plan télévisuel, si vous voulez, si je peux me permettre, le représentant de votre mouvement est moins efficace sur I24 News que l'est Ali Rabé face à Morandini. Parce que, je veux dire, Ali Rabé joue le jeu de Morandini et parvient à faire passer son message dans l'émission de Morandini. C'est quand même plus compliqué pour le représentant de votre mouvement là. D'où la question, est-ce qu'il fallait y aller? Est-ce que c'est intéressant médiatiquement d'aller essayer de porter une parole, on va dire, nouvelle, inattendue, dissidente, dérangeante, dans un lieu qui est le lieu par excellence des paroles catégoriques et caricaturales?
Oui, je pense qu'on n'était pas suffisamment préparé à ce niveau-là, mais l'idée, c'était que quand même, on savait que c'était un plateau un peu piégé, dans le sens où voilà, on retrouve des journalistes qui tendent vers l'extrême droite, complotistes. Et donc, effectivement, l'idée, c'était d'aller y faire passer un message. Mais le problème, c'est que dans ce genre de plateau, c'est, donc, je crois qu'ils se font appeler les grandes gueules en référence à l'autre émission.
Oui, c'est les grandes gueules de I24 News. Oui.
Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est juste, pour l'avoir écouté avant et un petit peu après, ils se coupent tout le temps la parole. Ils sont vulgaires. On entend un moment d'ailleurs l'un des journalistes traiter notre camarade de con en direct à la télé. Ils se coupent eux-mêmes la parole. Il n'y a pas une phrase qui peut durer plus de 5 secondes. C'est assez catastrophique.
D'où la question, est-ce qu'il faut y aller? Est-ce que ça vaut quand même le coup? Est-ce que c'est... Voilà.
On apprend de nos erreurs. Je pense que
vous irez plus.
Peut-être que la prochaine fois, on demandera un autre dispositif qui soit plus favorable à ce niveau-là.
D'accord. Et sur la question qui vous est posée et à laquelle finalement votre camarade ne répond pas... où vous étiez les 15 dernières années? Alors, sous cette question, il y a... Non, mais la question sous la question, c'est est-ce que vous-même, juif de gauche, n'avez-vous pas vous-même participé au déni de l'attentat qui a visé Ilan Halimi? Et n'avez-vous pas eu l'impression, vous-même, dans ces 15 dernières années, d'être un peu dans le déni?
Bon, alors, personnellement, je pense avoir été trop jeune à ce moment-là, mais pour en avoir discuté avec d'autres camarades, c'est clair qu'il y a eu un souci dans la gauche, et c'est d'ailleurs le moment où on s'en est rendu compte entre nous, où on a décidé de créer ce mouvement des Juives et Juifs révolutionnaires. On s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul à penser ça et qu'on avait besoin de créer un mouvement, un espace dans lequel on puisse parler et faire avancer cette question. On a été là, en réalité. Des personnes, des juifs et juifs révolutionnaires étaient à la manifestation en 2006. D'autres ont organisé en 2016, pour les 10 ans, une autre commémoration organisée par les juifs et juifs révolutionnaires et l'Union des juifs pour la résistance et l'entraide.
Donc vous y étiez.
Participé à ces manifestations, pas forcément en tant que JGR, on n'existait pas tel quel, mais on était là aussi. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la gauche n'a pas toujours été là. Et à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui sont à recréer. Et avec le rassemblement qu'on a fait, on a l'espoir de recréer quelque chose. Mais je pense que c'est important de pouvoir laisser une ouverture pour que les choses avancent. Il y a des gens qui nous ont renvoyé à la figure que, de toute façon, la gauche a été absente pendant 15 ans, donc c'est même plus la peine de parler. Bon, avec ça, on n'avancera jamais. Je pense que tout le monde a ses casseroles, les gens de gauche, les gens de droite, les gens du milieu. Tout le monde a ses casseroles derrière lui, derrière elle. Et puis maintenant, il s'agit d'avancer. Et le problème, c'est que juste dire qu'on est contre l'antisémitisme et tous les racismes, c'est quelque chose qui ne fait même plus dénominateur commun. Et donc, on pense que là, il y a un souci.
Ali Rabet.
Bon, moi, en réaction, je fais partie de ceux qui ont voté Emmanuel Macron au second tour face à Marine Le Pen en 2017. Et qui ont gravement le sentiment aujourd'hui d'avoir été fait cocu. Je reprends là le mot de Benoît Hamon il y a quelques jours sur un plateau télé. Parce que quand j'entends Gérald Darmanin face à Marine Le Pen qui explique qu'elle est molle par rapport à lui sur ces questions, je suis très préoccupé. Et je pense que politiquement, il faut dénoncer cette espèce de stratégie due en même temps de la triangulation politique qui a été théorisée bien avant Macron, qui consiste à envoyer des signaux contradictoires à des électorats contradictoires pour essayer d'additionner les voix.
Quel est le rapport avec les juifs et juifs révolutionnaires?
Tout simplement parce que, c'est la conclusion, on envoie des signaux à l'extrême droite en faisant parler des ministres comme Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin, qui flattent cet électorat. On essaye d'envoyer des signaux à la gauche plus antiraciste pour essayer également de la flatter en souhaitant additionner les électorats et refaire le match de 2017 avec Macron-Le Pen au second tour et pas d'alternative. Et pour ce qui me concerne, j'ai la conviction depuis toujours, depuis que je me suis engagé gamin, qu'à la fin, plus on flattera ces idées-là, plus on les laissera prospérer dans le débat public et progresser, les idées d'extrême droite, les idées fascisantes, les théories du complot, etc. Et on le paiera tous. Et les apprentis sorciers au sein du gouvernement actuel qui jouent avec le feu pour des petits calculs électoraux vont nous faire exploser la bombe sous le nez, à nous tous. Et qu'on soit juif, musulman, asiatique effectivement, rome, noir, peu importe ses origines, on paiera tous le prix lourdement de cette exaspération du sentiment raciste et antisémite dans notre pays. Donc il est temps, je suis assez d'accord, de réunir tous les démocrates, tous ceux qui veulent sauver la démocratie, puisqu'on en est là aujourd'hui, pour faire front face à ses ennemis, et en particulier à ceux qui exacerbent ces sentiments.
Voilà, c'était la conclusion très politique d'Ali Rabet. Merci d'avoir participé à cette émission. Emmanuel Sanders, merci d'y avoir participé aussi. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.
C'est le vrai sujet. C'est qu'on en est là. Je le pense profondément au terme de... Certes, je ne suis pas le plus lucide au moment où je parle, etc. Mais je crois que là, on est quelques-uns qui, si on me convoque là, pour me dire, tu choisis...